Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Monsieur de Musère s'est référé à la boîte à outils, la toolbox, qu'est l'Union Benelux, qui vise à offrir des instruments pour faciliter, pour renforcer la coopération transfrontalière. Coopérer sur le plan transfrontalier, oui, mais avec quel objectif? C'est une question très difficile, mais à notre avis, l'essentiel de la réponse est que ce ne sont pas les institutions Benelux à Bruxelles, mais que c'est vous, vous qui connaissez la réalité du terrain, qui déterminez s'il est opportun de coopérer sur un sujet particulier, qui déterminez si cette coopération devrait poursuivre un objectif général, par exemple un échange d'informations, de bonnes pratiques, concertation générique, ou bien si cette coopération transfrontalière devrait poursuivre un objectif particulier, tel par exemple la gestion conjointe d'un parc naturel transfrontalier. C'est également vous qui êtes le plus à même de déterminer si des exemples qui existent déjà, des coopérations qui existent déjà peuvent servir de source d'inspiration comme piste de solution pour les défis auxquels vous êtes confrontés, voire si les défis auxquels vous êtes confrontés nécessitent de trouver une solution tout à fait nouvelle. Pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir déterminer quel objectif poursuivre, il est important que vous soyez bien informés. Et dès lors, il nous semble utile de souligner que l'Union Benelux offre plusieurs instruments juridiques qui permettent de faciliter la coopération transfrontalière, non seulement entre les trois pays en tant que tels, mais également entre des acteurs locaux, des autorités communales ou régionales. Il existe en fait, dans le cadre de l'Union Benelux, une centaine de traités qui ont été conclus ces dernières décennies entre les trois pays. Et ces traités couvrent un large éventail de sujets. Et ce qui est intéressant, c'est que ces traités ne vont pas régler toutes les questions dans le détail, mais vont uniquement offrir un cadre qui permet une concrétisation à un stade ultérieur, concrétisation pour laquelle on peut faire appel à un cadre institutionnel bien établi, qui a fait ses preuves depuis ces dernières 60 années, et qui bénéficie également de procédures flexibles. Je sais très bien que ce que je viens de vous dire, que ça reste très abstrait, mais donc permettez-moi de vous donner quelques exemples concrets en me focalisant tout d'abord sur un instrument très spécifique qui est la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale. Cette convention a été conclue en 2014, mais constitue en fait la nouvelle mouture d'un traité Benelux qui avait déjà été conclu en 1986 et qui était à ce moment-là vraiment à la pointe, était le traité le plus avancé en Europe en matière de coopération transfrontalière. Par après, il y a eu des développements au niveau européen qui ont rattrapé cet instrument Benelux. Il y a notamment eu au niveau européen la création de ce qu'on appelle le GEC, le Groupement Européen de Coopération Territoriale. Et suite à cette réalité, il a été décidé en 2014 de combiner les avantages respectifs de l'ancien traité Benelux avec les avantages de ce nouvel instrument européen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous disposons d'un un traité Benelux qui offre par rapport au GEC davantage de flexibilité. Davantage de flexibilité non seulement en termes de participants possibles dans un contexte Benelux, également les autorités centrales peuvent participer au groupement de coopération transfrontalière, alors qu'au niveau européen, ce n'est pas le cas. Davantage de flexibilité également en termes de formes de coopération. Il y a des formes de coopération avec une personnalité juridique, il y a des formes plus légères, et il y a des accords purement administratifs aussi. Plus de flexibilité en termes de sujets qui peuvent être traités. Dans le contexte européen, certains sujets sont exclus, alors que dans le contexte béneluxien, la coopération est possible sur tous les sujets qui relèvent des compétences des acteurs concernés. Il y a également plus de flexibilité en termes de structure. Cela peut paraître très bureaucratique, mais lorsque vous établissez un GECT, il faut également que vous choisissez un président, non seulement une assemblée générale, mais également un président. Dans la pratique, ce système qui est plutôt anglo-saxon pose parfois un problème. Et donc le cadre Benelux offre davantage de flexibilité et permet par exemple d'avoir un groupement de coopération où l'assemblée générale est composée de, des conseils communaux. Mais au lieu d'avoir un président, il y a une sorte de collège qui est composé des collèges des bourgmestres et échevins. Maintenant, permettez-moi de donner quelques exemples beaucoup plus, plus concrets. Imaginez que vous voulez créer une structure commune pour aborder des questions générales, une plateforme de concertation avec une personnalité juridique qui peut donc également, par exemple, ouvrir un compte en banque, avoir son propre personnel, acquérir des biens ou des services, participer à des projets européens. Alors sachez que cela a déjà été fait entre des communes néerlandaises et flamandes. Imaginez que vous souhaitez établir une structure commune afin de faciliter la distribution de repas à des personnes âgées. Là aussi, il y a des exemples existants de coopération béneluxienne entre communes néerlandaises et belges. Il en va de même pour des structures qui ont spécifiquement été créées, par exemple pour gérer conjointement une académie de musique. Toutes ces structures ont pris la forme de la coopération la plus poussée, le groupement Benelux de coopération territoriale, qui, comme je l'expliquais, dispose d'une personnalité juridique et peut dès lors participer pleinement à la vie de droit sans que la frontière doive constituer un obstacle à cela. Mais il est bien possible, mesdames et messieurs, que de telles structures vous semblent trop lourdes et que vous souhaitez avoir davantage de flexibilité tout en ayant une bonne base de départ, un document écrit qui clarifie les responsabilités ou la répartition des tâches des uns et des autres. Pour cela, notre convention Benelux offre une sorte d'organe intermédiaire appelé organe commun. Cette structure a été utilisée pour organiser des concertations intercommunales sur un large éventail de thèmes, pour gérer des parcs régionaux paysagers transfrontaliers, ou même pour créer des enceintes ou d'éventuels projets, d'éventuels financements, cofinancements par l'Union européenne sont discutés ensemble. Il y a également une troisième forme de coopération, et ça c'est la plus légère qu'offre la Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, qui est celle des simples arrangements administratifs, où une commune d'un pays accepte d'effectuer certaines tâches pour le compte d'une commune d'un autre pays. Cela a été fait entre la Belgique et les Pays-Bas, par exemple pour la gestion commune des déchets ménagers. Il y a pas mal de tels arrangements administratifs qui ont été conclus à nouveau entre des communes belges et néerlandaises dans le domaine de la gestion des crises. Par exemple, une répartition des tâches quant aux opérations effectuées par les ambulanciers, par les pompiers, etc. Ceci vous donne, j'espère, un aperçu global des différentes possibilités qu'offre cette convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale. J'aimerais également souligner, puisqu'elle a été mentionnée dans l'introduction, que des représentants des pays voisins du Benelux sont également présents. Ce traité Benelux de 2014 comporte une ouverture vis-à-vis des pays voisins et il est loisible à la France aussi bien qu'à l'Allemagne d'adhérer à cette convention avec la possibilité, au moins en théorie, que cette adhésion se limite aux régions frontalières françaises ou allemandes. Comme je l'ai déjà mentionné, mesdames et messieurs, des centaines de traités ont été conclus entre les trois pays du Benelux. Je viens d'en présenter un seul, mais sur la base de ces autres traités, on peut également aller plus loin, parce que tout ce que j'ai mentionné jusqu'ici concerne uniquement la forme de la coopération, concerne l'établissement de structures, mais n'a pas trait, au fond, à la législation, à la réglementation applicable. Et il peut être utile d'harmoniser davantage cette législation pour faire face à certains défis, notamment dans les régions frontalières. En général, les instruments Benelux qui permettent de réaliser une telle harmonisation concernent les trois pays dans leur totalité. Mais il y a des exceptions. Il y a des règles benéluxiennes qui ont été établies qui concernent seulement deux des trois pays, voire qui concernent même uniquement une certaine partie de deux des trois pays. Par exemple, une zone d'activité transfrontalière entre les communes Lanaken en Belgique et Maastricht aux Pays-Bas était confrontée à des défis liés à des différences entre la législation environnementale flamande et néerlandaise. Et cela entravait le développement harmonieux de cette zone d'activité transfrontalière. Dans le cadre Benelux et en ayant recours à des instruments juridiques des Benelux, un cadre a été créé pour dépasser ces différences. Et c'est un cadre juridiquement contraignant qui offre donc une sécurité juridique non seulement aux autorités locales ou provinciales concernées, mais également aux particuliers, aux entreprises qui ne veulent pas prendre de risques pour pouvoir investir dans le développement d'une telle zone d'activité transfrontalière. Nous nous rendons pleinement compte que cet exemple pourrait servir de source d'inspiration, pourrait être utile pour certains défis auxquels vous êtes confrontés également. Il existe également des coopérations Benelux, par exemple pour ce qui est transport ambulancier transfrontalier d'urgence, qui ont d'abord été réalisés entre deux des trois pays, en l'occurrence entre la Belgique et les Pays-Bas, mais qui, dans un stade ultérieur, ont été copiés dans les relations entre la Belgique et le Luxembourg. Et dans ce dossier particulier, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, le régime belgo-luxembourgeois va déjà beaucoup plus loin que l'original, que le régime belgo-néerlandais. Et en termes de transport ambulancier d'urgence, par exemple, ce régime a également permis de dépasser certaines difficultés liées à des législations différentes, par exemple en matière d'utilisation de signaux prioritaires, de permis de conduire, etc., etc. Ceci pour vous dire qu'il existe une panoplie d'exemples, de possibles précédents qui pourraient vous intéresser et qui pourraient être utiles dans la coopération transfrontalière qui est de plus en plus présente dans vos esprits. Maintenant, j'aimerais rendre la parole à M. de Musère pour formuler une conclusion.